Bonjour, frères et sœurs. Je vais vous inviter ce matin, si vous le voulez bien, nous étudions ensemble la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il est dit au verset 11, « Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Je vous invite à faire une deuxième lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Nous lirons à partir du verset 4. « Un semeur sorti pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain pour 100, un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Je voudrais qu'on lise la signification de cette parabole, mais dans Luc chapitre 8, verset 9, il nous est dit ceci, « Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur a été dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient, et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui ne viennent à maturité. Verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. À la fin de cette parabole, le Seigneur dira que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Et il dira concernant, nous l'avons lu tout à l'heure, le peuple hébreu, ils ont des yeux mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles mais ils n'entendent ni n'écoutent et ne comprennent. Ils ont peur de voir, ils ont peur d'entendre, d'écouter et de comprendre, ils ont peur de se convertir, ils ont peur qu'ils les guérissent. C'est quand même un paradoxe. Nous comprenons, frères et sœurs, en tout cas c'est ce que je comprends et c'est ce que j'essaye de partager avec vous ce matin très simplement. Ces trois champs, premier champ, ne peuvent ni produire, ils ne peuvent donc être en bénédiction de leur propriétaire. Ils sont donc inaptes à la production. Nous avons compris, frères et sœurs et amis, dans la lecture que les champs dont il est parlé ici, ce sont nos cœurs à chacun. Ils représentent l'état du cœur de l'homme. En tout cas, à ce moment-là, lorsque le Seigneur parle de cette parabole, il met en lumière l'état du cœur de son peuple. Et je crois, frères et sœurs, très humblement, que nous ne différons pas d'eux. Malgré les siècles, les temps qui ont passé, le cœur de l'homme, il est pareil. Quelle que soit la couleur que nous pouvons avoir, le cœur de l'homme, il est le même. Mais que le vœu, le souci, le désir de Dieu de tout temps a été de combler notre cœur, de faire de ce champ un champ qui soit productif, qui rapporte et qui soit une bénédiction. Nous comprenons, enfin je comprends, et c'est ce que je voudrais également vous partager ce matin, frères et sœurs, très simplement, c'est que cela représente des cœurs malades qui souffrent et qui ont besoin sincèrement d'un changement, d'une guérison. Mais que parfois, confrontés aux situations de la vie et des différentes circonstances de notre chemin parcouru, eh bien, cette souffrance, ces maladies qui sont là au fond de nos cœurs, nous empêche de voir, nous empêche d'entendre, d'écouter, de comprendre, nous empêche de nous engager, de croire, nous empêche d'être guéri. Ainsi, nous pouvons pendant des années être déjà un enfant de Dieu, mais nous pouvons également traîner avec nous des souffrances qui nous empêchent pleinement de nous épanouir dans la vie avec Dieu, dans la vie de Dieu, d'être productif, d'être agréable, d'être béni et d'être une source de bénédiction. Nous savons, frères et sœurs, que lorsque Dieu nous bénit, ce n'est pas uniquement pour nous-mêmes, mais c'est afin que chacun, nous soyons à notre tour un canal, une source de bénédiction pour d'autres. Nous l'avons entendu, frères et sœurs, au travers de la parole partagée, le chemin de croix, ce que Christ a accompli. Et je veux le répéter et le redire, frères et sœurs, et insister là-dessus, que Christ n'était pas obligé. Parce que Christ est le Seigneur, il est Dieu, il a de tout temps pouvoir et autorité sur toutes choses. Mais s'il a volontairement accepté le plan de Dieu, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour nous, frères et sœurs. Il faut que nous comprenions bien ces choses et que nous intégrions que la croix, c'est pour nous. La croix, c'est la seule possibilité pour nous d'être guéri. Mais bien parfois, pour des raisons diverses, il ne m'appartient pas de juger quoi que ce soit, nous traînons avec nous pendant des temps des maladies, des souffrances qui sont là cachées dans notre cœur, et nous avons peur d'en être guéris, si bien que au lieu de s'épanouir dans la vie de Dieu, nous sommes toujours en difficulté constante. Alors que le désir de Dieu, la volonté de Dieu de nous bénir a déjà été manifestée. Et elle a été déclarée avec force, avec puissance, avec autorité. Alors que la parole de Dieu est annoncée de tout temps, eh bien, parfois nous n'avons pas entendu. Nous sommes là, on s'est fait du bien, mais on n'a pas compris. On n'a pas saisi. On n'a pas intégré. Alors, c'est très possible, je le reconnais, je le confesse très simplement, que le prédicateur peut avoir de la difficulté pour exprimer la pensée de Dieu. Mais je crois qu'en grande partie, et je crois que c'est pour cela que j'ai lu dans Luc chapitre 8 tout à l'heure, que ce que Dieu demande de nous, frères et sœurs, si nous voulons être guéris, si nous voulons prospérer, si nous voulons être bénis, si nous voulons être une source de bénédiction, et je crois qu'on le désire très humblement, je crois que c'est quelque chose qu'on désire. Eh bien, le Seigneur dit ici, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête. C'est important, frères et sœurs, d'être honnête avec Dieu. De ne pas tricher. De ne pas vivre dans la dissimulation. C'est important d'être honnête, d'être sincère avec Dieu. C'est la clé. Nous pouvons jeûner et prier sans rien obtenir parce que nous ne sommes pas honnêtes. Est-ce que Dieu nous demande, est-ce que je voudrais nous amener ce matin à avoir ce cœur honnête devant Dieu. Et l'honnêteté, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose d'inné dans la vie de l'homme. Depuis la chute de l'homme, eh bien, le cœur de l'homme a toujours été de tout temps attiré vers le mal. Et nous voyons encore aujourd'hui, il grandit. Et que cette honnêteté, eh bien, nous ne pouvons l'obtenir que par la grâce de Dieu, que par l'œuvre de la croix. Et que si nous sommes honnêtes et bons, le Seigneur dira, il n'y a de bon que Dieu seul. Mais le Seigneur, il dit ici, avec un cœur honnête et bon. Ça veut dire que c'est un cœur qui est passé à la croix, qui a reçu la personne de Christ. Dieu vit pleinement en lui. Il n'y a que Dieu qui peut manifester, exprimer cette bonté dans notre vie. La retienne. Lorsque Josué va entrer pour la conquête de Canaan, le Seigneur lui dira, médite la parole jour et nuit. C'est la clé de la réussite. voyez, stratégie de combat. Pour ceux qui ont été, je crois qu'il y a un militaire au milieu de nous, je ne pense pas que ça fasse partie des stratégies de combat. Mais la clé de la victoire, la clé de la guérison, la clé de la réussite, c'est dans la parole. Elle a déjà été donnée une fois pour toutes. Nous avons ici devant nous toute la révélation de Dieu qui nous est donnée. Et c'est vrai qu'avec nos cœurs, nos pensées, notre façon de concevoir nos expériences, notre culture, etc., différents les uns des autres, nous avons une manière de comprendre d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y a qu'un seul qui peut nous amener à saisir la vérité de cette parole, c'est l'auteur de la parole. Et nous comprenons dans cette parabole que la semence, c'est la parole, que le champ, c'est le cœur. Il faut que ces deux entités se rencontrent. Une graine sans champ ne peut pas produire. Elle risque de se perdre, de mourir. Un champ sans semence, ben il sera envahi de la mauvaise herbe. Et je me plais souvent en été de faire le tour sur les coteaux là, et puis de regarder les champs. C'est beau, hein? C'est vraiment beau, hein? Mais je crois qu'au-delà de la beauté, c'est que celui qui sème, il n'a pas semé pour la beauté, même si c'est beau, mais c'est pour la production. Et ce que je voudrais nous amener à saisir, frères et sœurs, ce matin, c'est que ce qui fait la valeur du champ, ce qui lui donne de la valeur, c'est ce qui a été semé. Vous voyez? Un champ sans semence n'a, pour ainsi dire, pas beaucoup de valeur, à moins que ce soit constructible. Mais je parle ici d'agriculture. Si un champ réservé à l'agriculture n'est pas ensemencé, il ne va rien rapporter. On peut avoir un grand champ, mais si rien n'a été planté, il ne rapportera rien. Frères et sœurs, ce qui nous donne de la valeur, c'est la semence, la parole de Dieu. C'est l'œuvre de cette parole dans notre cœur et dans notre vie. Je ne reviendrai pas sur l'œuvre de la croix parce qu'elle a été déjà détaillée tout à l'heure, mais je voudrais simplement insister sur le fait que si Christ, il a vécu, accepté toutes ses souffrances, c'est pour nous, frères et sœurs. Il ne les a seulement pas vécues, il a triomphé. Voyez? Les souffrances n'ont pas vaincu le Christ. Christ a vaincu la souffrance pour nous, frères et sœurs, afin que nous nous déchargions sur lui de toutes nos souffrances, de nos infirmités, de nos maladies, pour trouver la guérison et qu'ainsi notre vie soit une vie bénie, épanouie. Il y aurait certainement beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Et si vous voulez bien, on va peut-être parler de Jacob. Jacob, nous connaissons, c'est Israël. Mais avant d'être Israël, il était Jacob. Jacob, dans l'Écriture, veut dire supplanté, trompé. Et on l'a vu tout au long de la vie de Jacob. Il a supplanté son frère. Il a trompé son père et il s'est enfui. C'est généralement ce qui se passe.
quand on trompe, quand on supplante les autres, on ne les affronte pas, on s'enfuit. Mais parfois, il arrive que les trompeurs sont trompés et se font supplanter. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. Au moment du mariage, au lieu que ce soit Rachel, c'est Léa qui lui a été donnée. Et il a fallu travailler encore 7 ans de plus, 14 ans. Au bout de 14 ans, il a eu ses deux femmes et des enfants, mais rien du tout. Alors son beau-père va lui dire, tu vas travailler encore, s'il te plaît, si tu veux que t'enrichir, si tu veux que je te paye. Et il va travailler encore 6 ans. Mais pendant ces 6 ans-là, il y a eu des tromperies d'un côté comme de l'autre. Laban a changé plusieurs fois le salaire de Jacob. Et Jacob a trompé pour prendre une partie des biens de son beau-père. Pour arriver à la fin, à ce qu'il va tromper finalement son beau-père en s'enfuyant sans le dire. Et quand son beau-père va l'apprendre, il va le poursuivre. Si vous voulez toute l'histoire, Genèse, à partir de Genèse 32, 33, etc. Si bien que lorsqu'il va être prêt d'atteindre Jacob, heureusement que Dieu veille sur Jacob. Frères et sœurs, je crois qu'heureusement que Dieu veille sur notre vie. Amen. Oui. Même quand on est dans la tromperie, mais heureusement que Dieu veille sur notre vie. Parce que je crois qu'il y a, des centaines, voire des milliers de fois, certainement que nous le serons dans l'éternité si Dieu le veut, toutes les fois où Dieu nous a fait échapper de quelque chose, nous a protégés de quelque chose. Mais heureusement que là, Dieu va parler à Laban et lui dit, tu ne dirais en rien à Jacob en mal ou en bien. Et là, lorsqu'il va retrouver son beau-fils, ils vont prêter serment. Ils vont régler le problème et prêter serment. Ils vont se réconcilier là. Si bien que quand Jacob va partir, il s'est déjà réconcilié avec son beau-père. Sinon, c'est une casserole qu'il va ramasser, traîner tout le long de sa vie. Il ne s'est pas réconcilié. S'il ne s'était pas réconcilié. Là, il s'est réconcilié, il va pouvoir continuer son chemin pour rentrer au pays selon la parole que Dieu lui a donnée. Mais là, lorsqu'il arrive à la frontière, au torrent de Jabbok, quelque chose va se passer. Il va envoyer des messagers à Ésaü pour dire à Ésaü, ton serviteur arrive. Et Ésaü va venir à sa rencontre avec 400 personnes. Vous comprenez que là, certainement, Ésaü n'est pas venu pour faire joujou, pour dire bonjour mon frère, mais il est venu pour combattre, pour se venger de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a souffert. Alors, Jacob encore là va user de stratèges. Il va envoyer des présents, les uns espacés les uns après les autres, en espérant que lorsqu'il va pouvoir attendrir le cœur de son frère. Mais il comprendra bien vite que ce n'est pas le cas. Lorsque de loin, il va voir arriver son frère avec les 400 personnes, une armée. C'est là que ça va se passer l'essentiel. Parce que pour qu'il rentre au pays, pour qu'il revoie son père, parce qu'il a certainement besoin qu'il se réconcilie avec son père, parce qu'il a trompé son père. Il fallait qu'il se réconcilie d'abord avec son frère. Frères et sœurs, s'il y a des problèmes qui se posent dans le même, comme dans le même cas que Jacob, je crois que c'est important que ça se soit réglé. Sinon, ce sera toujours un problème dans notre vie et qui nous empêchera de nous épanouir, qui peut nous conduire dans le doute, dans le découragement, puis dans la défaite, dans l'abandon. Mais c'est parce que Dieu veut pour notre vie. Lorsque Dieu s'est révélé à notre vie, c'est pour une vie pleine d'épanouissement. C'est ce que Dieu désire pour nous, frères et sœurs. Mais il nous appartient de régler les problèmes. Il y a le problème du péché, c'est le Seigneur lui-même qui l'a réglé parce qu'on ne peut pas le régler. Le problème de nos péchés, de nos fautes, c'est le Seigneur lui-même qui l'a réglé parce que nous ne sommes pas en mesure de le régler. Le pouvoir de Satan sur notre vie, c'est le Seigneur lui-même qui l'a réglé parce que nous sommes incapables de le faire. Le problème de l'attrait du monde, le Seigneur, il en a triomphé. Et il nous a donné cette victoire. Il a déjà tout accompli. Paul dira, puisez vos forces dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Tout est par grâce. Ne cherchons pas à mériter, parce que tout est par grâce et ne sera toujours que par grâce. Nous ne méritons rien. Dieu met tout à notre disposition. Il nous demande simplement de prendre, de nous emparer. Et la parole de Dieu nous dira, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Parfois, il y a besoin de se faire violence. Jacob va lutter pendant toute une nuit. Et à la fin, alors que l'ange allait le quitter, il va dire, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Ouais, c'est ça, je voudrais que ce matin, nous ne puissions pas repartir de ce lieu sans que Dieu nous ait bénis. Alors, l'ange va lui poser la question, quel est ton nom? Jacob. Ça veut dire quoi? Le Seigneur ramène Jacob à sa réalité. Jacob, il faut que tu triomphes de ce que tu es. Ce n'est pas possible de continuer à vivre en tant que Jacob. Tu te trompes et tu continueras de tromper et d'être trompé. Ce n'est pas cette vie-là que Dieu veut nous donner. Dieu nous a accordé une fois pour toutes la victoire. Et il dira, ben maintenant tu ne t'appelleras plus Jacob, tu vas t'appeler Israël. Parce que tu as lutté avec l'Éternel et des hommes et tu as été vainqueur. Alléluia. Frères et sœurs, saisissons-nous de la victoire de la croix. Et alors que Jacob, il a usé de stratèges pour essayer d'amadouer son frère, il a fait passer sa femme, ses femmes et ses enfants dans la nuit, le guet, et il est resté de l'autre côté. La Bible nous dit au chapitre 33 que c'est lui qui marche devant son peuple. Frères et sœurs, lorsque nous avons vécu la victoire, et c'est ce que Dieu veut nous donner, nous ne nous cachons plus. Nous marchons la tête haute parce que nous sommes vainqueurs. Amen. Il n'y a que les vaincus qui se cachent. Mais les vainqueurs expriment leur joie de la victoire. Nous sommes un peuple de victorieux. Parce que Christ a déjà acquis pour nous la victoire à la croix. Alléluia. On pourrait parler de d'Anne, par exemple. Cette femme que Dieu a rendue stérile et qui pendant des temps a vécu emprisonné dans son amertume de ne pas être mère, de ne pouvoir enfanter, de ne pouvoir donner des enfants à son mari. Pendant des années, elle a été emprisonnée avec un état de cœur qui vivait dans l'amertume, dans la colère certainement, dans l'incompréhension. Jusqu'au jour où elle décide véritablement de aller dans la présence de Dieu et là d'ouvrir son cœur à Dieu, d'épancher son cœur devant Dieu. Alors même que le responsable de l'époque, il n'avait plus les yeux pour voir, il manquait certainement de vision et qu'il va penser qu'elle était en train de, qu'elle était saoule et que, comme beaucoup qui venaient à cette époque-là, cette femme va exprimer que non, elle est venue répandre son cœur devant Dieu. Et l'homme de Dieu va lui dire, va en paix, que Dieu exauce ta prière. Alléluia. Et la Bible nous dit que cette femme s'est levée et elle ne fut plus la même. Frères et sœurs, s'il y a des blessures, s'il y a des souffrances, s'il y a des choses que nous traînons depuis des années, il n'y a qu'une seule condition qui va nous permettre de nous épanouir, c'est de répandre cela, de déposer cela devant Dieu. Le Seigneur nous invite à nous décharger sur lui de tout fardeau, de tout souci. Celui qui est chargé et fatigué, qu'il vienne à lui et il aura la paix véritable. Alléluia. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de paix. C'est le Dieu qui veut donner la vie. Et cette femme, un an plus tard, elle va donner naissance à Samuel. Mais cette femme, dans son histoire, elle ne sait pas, nous le savons, qu'elle était en train d'écrire la parole de Dieu. Son histoire est la parole de Dieu, comme Jacob. Parce que Jacob a triomphé, au chapitre 49, il prononcera les paroles de bénédiction pour le peuple d'Israël, dont nous sommes bénéficiaires aujourd'hui, frères et sœurs. Parce que si aujourd'hui, frères et sœurs, nous faisons partie du peuple de Dieu, nous faisions partie de l'olivier sauvage, mais nous avons été greffés sur l'olivier franc. Comprenez bien, frères et sœurs, que lorsque nous avons été greffés dans la bénédiction de Juda. Parce que Christ descend de la tribu de Juda. Et dans la bénédiction que Joseph prophétiquement va prononcer, il y a déjà le règne de Christ. Frères et sœurs, Paul dira, déjà, vous avez commencé de régner. Nous sommes appelés à régner, frères et sœurs. Régner sur les difficultés, les soucis, les fardeaux, etc. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui vit en nous. Amen. Le Seigneur nous destine à une vie d'épanouissement. Je voudrais simplement, frères et sœurs, qu'au travers de ces quelques paroles, que difficilement partager, susciter dans notre cœur à tous la nécessité d'entendre, d'écouter, de comprendre. Et s'il faut ce matin confesser, faites-le. S'il faut peut-être une reconversion, on s'est converti mais on se rend compte que ce n'est pas total, faites-le. S'il faut une guérison, vivez-le, frère et sœur, parce que le Seigneur a déjà tout accompli. Alléluia. Oui, il dira à Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Frères et sœurs, je voudrais poser cette question que Jésus dira un jour dans Jean chapitre 5 à un homme paralytique. Veux-tu être guéri? On dira, question stupide, il est malade. Il n'a qu'une chose, c'est Oui, mais nous l'avons lu tout à l'heure, frères et sœurs. Si c'est écrit dans la parole, c'est Dieu qui connaît notre cœur. Il y en a qui ont peur d'être guéris. Ils ont peur de l'avenir s'ils vont être guéris. On finit par se conforter et s'identifier à ce que nous vivons. Sorti de là, on a peur. C'est ça la foi. Placer sa foi et sa confiance en Dieu, que je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais Dieu est fidèle à sa parole. Pour veiller sur ma vie, il l'a promis. Et lorsque Jacob, il était là confronté à cette difficulté, il va se rappeler, il va rappeler à Dieu dans sa prière. Seigneur, c'est toi qui m'as dit de revenir. C'est toi qui as dit de remonter. Parce que tu vas me bénir, parce que tu vas faire de moi un peuple nombreux. Il s'appuie sur la parole que Dieu lui a donnée dans un temps de difficulté. C'est ainsi qu'il obtient la victoire, frères et sœurs. Frères et sœurs, notre support, notre soutien, notre force, notre base, notre fondement, c'est la parole. Dieu veille sur sa parole pour la rendre exécutive et réelle dans notre vie. La parole de Dieu, ce n'est pas de la philosophie pour augmenter, agrandir la connaissance, la science, etc. C'est plus que cela. Dieu veut rendre exécutive cette parole dans notre vie. C'est possible. Si Dieu l'a dit, c'est parce que c'est lui qui va le faire. Tout ce qu'il nous demande, veux-tu être guéri? Cet homme était malade depuis 38 ans. Depuis combien de temps es-tu malade? Ou à cette femme qui était tenue liée, malade depuis 18 ans, dans Luc chapitre 13, verset 16, le Seigneur va guérir cette femme. Qu'est-ce qui te lie et qui t'empêche vraiment de t'épanouir? Dépose cela ce matin. Et vit cette guérison. Anne s'est levée parce qu'elle a reçu la parole. Je voudrais que ce matin, frères et sœurs, en repartant d'ici, on se soit relevé, guéri, changé, transformé, parce qu'on a retenu la parole.